grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et je vous propose une conversation avec un honnête homme, un érudit très actif, jamais cuistre, qui nous aide à prendre un peu de recul et de hauteur avec notre vie quotidienne. D'origine paysanne, né à Colombières-sur-Orbe, dans l'Hérault, en 1931, notre invité a vécu une existence publique de rêve. Ancien élève de l'école normale supérieure, scénariste oscarisé pour l'ensemble de son œuvre, romancier, dramaturge, conteur extraordinaire à la voix puissamment évocatrice, l'œil qui frise, curieux de tout, des mythes fondateurs au mystère de l'astrophysique. Et en cette époque binaire, fracturée, obscurantiste, complotiste, qui valorise le clash violent, il est réconfortant ce matin d'écouter cette voix humaniste. Jean-Claude Carrière est notre invité ce matin et il publie un merveilleux livre de vie consacré à la mort, La Vallée du Néant. Et vous, comment abordez-vous l'idée du néant, de la finitude, que vous soyez athée, croyant ou agnostique? Faites-nous partager également votre sens de la vie au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Il me semble que votre esprit d'escalier s'accorde très bien avec notre invité.
Ah oui, sur les titres de Louise Buñuel, déjà il y a de l'esprit d'escalier. Puis peut-être que aussi je vais faire des petits esprits d'escalier sur la notion d'éternité.
À tout à l'heure. Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef à l'Express. Quoi de neuf dans votre éternel retour des rites et rituels de la vie quotidienne?
Eh bien, puisque nous sommes fin novembre, c'est donc le retour des bilans, puisque les bilans de fin d'année ne se font jamais la fin d'année.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Oh putain, je suis mort! Oh non! Oh non, il déconne pas, je suis pressé là! Oh non! Oh non! Oh putain! Oh c'est sûr, maintenant je vais être en retard alors! Putain, mais prévenez les mecs, prévenez! Oh bah oui, bah tiens, bah tiens, bah oui, bah tiens, bah tiens, bah, 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 bah. T'as qu'à servir alors, on se sert comme ça! Non, non! Non, non! Non, non! Non, c'est pas possible, j'ai un mot du médecin, je supporte pas la mort.
Albert Dupontel, bonjour Jean-Claude Carrière.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous publiez un merveilleux livre chez Odile Jacob, La Vallée du Néant. C'est quoi exactement le néant? Est-ce une douce manière de nous parler de la mort?
C'est très difficile de définir le néant, puisque ce n'est rien. Le titre vient d'un poème iranien du XIIIe siècle, d'Attar, où les oiseaux qui partent à la recherche de leur vrai roi doivent traverser 7 vallées. Et une de ces vallées est la vallée du néant. Et ils se trouvent devant un endroit où il n'y a rien. Alors c'est très difficile de décrire le rien. Mais dans ce rien, les hommes de toute culture et de tout temps, les hommes et les femmes d'ailleurs, ont mis beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'a amené à tenter cette dernière promenade, tant que j'en ai encore le temps, aux rives du néant.
Et vous citez donc cet Attar, hein, dans la conférence des oiseaux, même le néant a un secret. Et à l'âge de 87 ans, est-ce que vous avez percé ce secret?
Non, pas encore, mais j'ai encore le temps.
Alors, comme tout le monde...
Ce qui est formidable, c'est qu'on se dit toujours, quand je serai mort, je saurai. En fait, on ne saura rien du tout. Il y a une phrase très belle de Sénèque qui dit, tout le monde sait qu'il doit mourir, mais personne n'a jamais su qu'il était mort. Évidemment. Donc, comment faire? Alors, on se trouve obligé de parler du rien quand on a tout, et quand on n'a plus rien, que dire?
Alors, comme tout le monde, je me réjouis de la naissance d'un enfant, je m'afflige du décès d'un proche, et comme presque tout le monde, j'oublie que je suis condamné à mort dès la naissance.
Oui, c'est quand nous mettons au monde un enfant, nous mettons au monde quelqu'un qui, obligatoirement, un jour ou l'autre, plus ou moins tard, et plus ou moins difficilement, devra mourir. On oublie toujours ça. On se réjouit de la naissance d'un mortel. Ça m'a toujours paru assez intéressant. Je commence comme ça. Cela dit, il n'y a pas de raison. J'ai des enfants moi-même qui ont des enfants. Donc il n'y a aucune raison de s'arrêter. Bien que on dit que la population du monde atteint une telle densité qu'il sera bientôt très difficile de la nourrir.
Alors vous écrivez qu'il y a finalement peu à dire sur cette vérité universelle, inéluctable. Alors pourquoi avoir écrit ce livre ?
Non, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce que les autres ont dit. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens, dont je fais partie, qui pensent qu'il y a la vie qui s'arrête et après, il n'y a plus rien. Mais beaucoup de traditions et beaucoup de penseurs et beaucoup de croyants ont dit qu'il y avait une vie qui commençait à la mort et que même, pour les chrétiens, la vraie vie commence là. Il est impossible d'accepter l'idée que nous devons un jour disparaître. Alors, j'analyse ce que j'appelle l'attitude pharaonique. Par exemple, l'idée que je suis puissant et riche dans cette vie, je le serai aussi dans l'autre. Donc je peux mourir en emportant avec moi mes esclaves, mes courtisanes favorites, mon argenterie, si j'en ai, etc. C'est le cas de la mort de Sardanapale, le fameux tableau de la croix au Louvre que j'analyse. C'est à un moment donné, c'est-à-dire que c'était aussi un peu le cas de certains empereurs chinois d'autrefois qui partaient avec armes et bagages pour l'autre monde, absolument persuadés qu'ils auraient une autre vie. Ils avaient même une armée pour les défendre, une armée en terre cuite, mais bon, on prend ce qu'on a.
Alors que notre vie soit longue ou brève, brillante ou misérable, notre fin est donc inévitable. Elle est promise, cette vie, aux vicissitudes, aux angoisses, aux accidents, à la maladie. Et pourquoi l'espèce humaine persiste-t-elle à se reproduire? C'est l'une des questions que vous posez dans votre livre.
Oui, c'est une des questions que je pose, mais je n'y réponds pas. Il faut bien se garder de répondre aux questions que l'on pose. Et c'est parce qu'elles sont en général des questions universelles. Pourquoi nous reproduisons-nous? Parce que c'est en nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre besoin d'avoir des successeurs, d'avoir des enfants, d'avoir des gens qui vont hériter de nos qualités s'ils ont de nos défauts, et qui poursuivront ce que nous avons fait, etc. Et beaucoup d'hommes et de femmes pensent toute leur vie à ce qu'ils vont laisser à leurs enfants, plus encore qu'à ce qu'ils ont acquis pour eux-mêmes. Ça m'a toujours frappé, et pourquoi pas, c'est ce qui fait la continuité de notre espèce, qui est une espèce, il faut le répéter, parmi d'autres, parce que nous ne sommes pas les seuls à faire des enfants. Tous les animaux et tous les végétaux en font aussi.
Alors vous êtes athée, vous l'avez dit, et vous posez cette question, comment vivre avec l'idée constante du néant, d'une fin imprévisible, inattendue?
On ne peut pas vivre autrement, donc il faut bien s'en accommoder, et je trouve que la meilleure façon... C'est d'en rire, d'en plaisanter, d'écouter, d'écrire éventuellement un livre de temps en temps, ce qui, de vous à moi, est aussi une cuirasse. C'est aussi une protection, bien entendu. Quand on a peur de quelque chose, on écrit dessus. Quand on a peur d'aller dans un grenier, on y va. Moi, je n'ai pas peur du tout. Comme disait, je crois, Montaigne, ce n'est pas la mort qui fait peur, c'est le mourir. C'est le fait de souffrir pour mourir. Une fois qu'on est mort, on n'a plus rien, on n'a plus de sentiments, plus de sensations, donc inutile de vous inquiéter.
Alors vous êtes un conteur.
Vous connaissez l'histoire des deux dames qui se rencontrent, et il y en a une qui dit à l'autre, et votre mari, toujours mort.
À propos de la mort, racontez-nous ce que dit la mythologie indienne sur l'invention de la mort par les dieux.
Oui, au début la mort n'existait pas, et les hommes se reproduisaient, et une personne qui s'appelle Bhumi, et qui est la terre, identifiée sous le nom de Bhumi, est allée se plaindre auprès des dieux en leur disant « Mais je suis de plus en plus piétiné, martelé par les pas de quantité d'hommes ignorants et violents, et je me demande demain que vont-ils encore me faire ?» Et elle a supplié les dieux d'inventer la mort, qui n'existait pas. Alors les dieux ont compris parfaitement ce de quoi la terre avait besoin, et ils ont demandé à une jeune déesse d'incarner la mort. Elle a demandé ce que c'était, puisque personne ne le savait. Quand elle a su ce que c'était, elle est devenue folle, elle s'est retirée dans les montagnes, elle a prié pendant des années, non, surtout pas ça. Et les dieux n'ont pas changé d'avis, ils l'ont rappelé, et ils lui ont dit, écoute bien, la mort ne tue personne. Les hommes et les femmes se tuent eux-mêmes. Toi, tu n'as qu'à enregistrer, ce n'est pas toi qui vas prendre un couteau ou un sabre pour tuer. Mais la mort est indispensable. Et depuis ce moment-là, on voit que d'ailleurs, c'est la mort, souvent, ou le néant, qui font le prix de notre vie. Imaginons une vie sans mort, qui serait parfaitement monotone et qui connaîtrait peut-être des maladies, des accidents, des inquiétudes, mais sans cette fin qui est la nôtre, que nous partageons, qui est quelque chose que nous partageons inévitablement tous. On n'a jamais connu personne qui ait échappé. On ne voit pas ce, si on pourrait encore appeler ça une vie, mais sans la mort.
Bonjour Christine Lapelle-Edouelle.
Bonjour.
Journaliste à Psychologie Magazine, experte éclairée de notre émission. Je crois que vous avez écrit une lettre de gratitude à Jean-Claude Carrière.
Oui. Cher Jean-Claude, je vous ai écrit un petit mot de gratitude.
J'ai pas reçu.
je vous la donnerai après l'émission. De gratitude et d'affection. Bon, on sait, vous avez fait tant de choses, écrit tant de scénarios, tant de livres, 40, je crois, plus de 40. Impossible, évidemment, de les citer tous. Bon, dans ce domaine-là, vous n'êtes pas le seul, il y a eu beaucoup d'autres scénaristes.
Vous avez l'air de dire que ça fait trop.
Ah non, pas assez, je dirais pas assez. Non, ce qui m'incite vraiment aujourd'hui à vous adresser ce mot de gratitude, c'est, et alors je passe là sur votre humilité et votre gentillesse que tout le monde connaît, non, c'est la force de transmission qui est la vôtre. Qui aurait jamais entendu parler de la conférence des oiseaux si vous n'aviez pas été là pour nous en parler ? Qui aurait jamais entendu parler du Mahabharata si vous n'aviez pas été là pour nous le dire ? Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous me confiez que même le premier ministre indien vous a accueilli en vous remerciant pour ce travail, car les Indiens ne lisent pas le Mahabharata.
Il m'a serré dans ses bras. Vous avez révélé le Mahabharata au reste du monde. India is your country.
Voilà.
C'est pas mal quand même.
Je peux en dire autant de la controverse de Valladolid, dont on n'aurait jamais entendu parler sans vous. Et ne parlons pas des hérétiques, comme ce Priscillien dont vous m'aviez parlé, que vous interprétiez dans la Voie lactée, parce que vous étiez et vous êtes toujours le seul homme à parler couramment latin.
C'est ce que disait Buñuel. Il était de plus en plus difficile de trouver des acteurs parlant correctement latin.
Je suis d'accord avec lui. Alors, parvenir quand même à rendre populaire de tels sujets, de tels textes, franchement, il faut le faire. Quant à mettre le néant à portée de nos mains, si j'ose dire...
Surtout ne pas se prendre au sérieux.
Surtout ne pas se prendre au sérieux. Je connais peu de gens qui soient capables de le faire avec vous. L'érudition et le talent ne sont jamais écrasants. Vous savez les partager, vous êtes un grand partageur. Vous êtes un honnête homme, Ali l'a dit. Et nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude.
C'est très très gentil, mais je crois en effet que... Une érudition sérieuse, grave et solennelle, d'abord m'aurait amené sur les bancs de l'Académie française où j'ai toujours refusé de me présenter. Maintenant, j'ai passé la limite d'âge, donc je suis tranquille.
Mais non, ils sont immortels.
Non, il y a une limite d'âge pour se présenter.
Ah, mais vous avez une limite d'âge pour être immortel.
Jean-Claude Carrière, justement, à l'âge de 87 ans, est-ce que vous vous demandez parfois si tout ça en valait la peine ?
Ah oui, moi je... La vie que j'ai eue étant fils d'un tout petit paysan du Midi, enfin le premier de ma famille à avoir le certificat d'études, la vie que j'ai eue est absolument incroyable quand je regarde en arrière. Je me suis dit, si le petit garçon que j'étais avait su ce qu'il attendait, je sais pas ce qu'il aurait fait d'ailleurs, mais c'était absolument imprévisible.
Alors votre livre, La Vallée du Néant...
Et je suis d'ailleurs, excusez-moi si je rajoute que je dois ça à une bourse de la République, et que si j'ai une chose à dire, c'est vive la République.
Votre livre, ce n'est pas un ouvrage morbide, c'est un hymne à la joie.
Surtout pas, la mort là, n'a rien de... Elle est très triste quand elle est lente et douloureuse. J'ai connu plusieurs personnes de ma génération qui sont en train de mourir, qui le savent, que je vais voir et avec qui nous parlons, et ça n'a rien de drôle. Mais elle est, une fois qu'on est mort, il n'y a plus raison pour soi-même, comme le disait Sénèque, de s'inquiéter. L'essentiel est fait.
Guillemette Odissino.
Mais c'est fou, mais Jean-Claude, vous qui avez fait tant de scénarios, qui avez co-scénarisé tant de films et tout, je me demande si en 12, vous n'avez pas aussi écrit le scénario de Ad Vitam, la série qui est passée sur Arte, qui est encore visible. Donc regardez-la, la série de Thomas Caillet, qui est exactement l'illustration de ce que vous dites dans votre livre. C'est-à-dire que, en fait, cette série parle de l'interdiction de la mort. La mort n'existe plus, puisqu'on a créé des caissons de régénération. C'est génial, on dirait des trucs pour faire des UV, sauf que là, ça vous donne des années de plus à vivre. Donc cette série invente un monde où il n'y a plus de mort, où même la mort est un mot qu'on ne connaît plus.
Oui, mais dans cette série, comme d'ailleurs dans les recherches sur ce qu'on appelle l'immortalité, il y a deux problèmes. D'abord, nous sommes tous soumis à une évolution naturelle qui date de la préhistoire, qui est très très puissante, très lente, mais très très forte. Comment faire pour l'arrêter? Comment faire pour y renoncer à ce qui est en nous? Et la deuxième question, c'est évidemment de cette immortalité.
L'obsession aujourd'hui de l'immortalité.
Que cette obsession de l'immortalité, c'est qu'en faire? Qui choisir? Qui seront les immortels? Ça suppose que nous aurions atteint un niveau tel qui serait indépassable, et ça suppose surtout que interdire la mort serait aussi interdire la naissance.
Oui, parce qu'il y aurait forcément surpopulation.
On ne pourrait plus vivre sur la Terre. Donc la fin de la mort ne saurait pas se concevoir sans la fin de la naissance. Or, interdire la naissance sur toute la surface de la planète, qui s'y risquerait?
Allez, dites-nous comment vous abordez l'idée du néant, de la finitude, de la mort, que vous soyez athée, croyant ou agnostique. Dites-nous quel est pour vous le sens de la vie, hein, au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook De Grand Bien Vous Fasse.
Je peux dire un mot?
Bien
là,
sûr, allez-y.
Parce que je m'interroge sur le sens du mot sens. Mmh. Ouais, le sens de la vie, ça veut dire quoi? La direction ou la signification?
La signification.
Hein, c'est
Le sens, on sait où ça va.
Oui, justement.
À la préparation de cette émission, Alexia Rivière.
Mais tout le monde n'est pas d'accord.
Oui, c'est vrai. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier, et pour vous faire plaisir, Jean-Claude Carrière, Janis Joplin. Janis Joplin, Move Over. Jean-Claude Carrière, pourquoi aimez-vous Janis Joplin, que vous avez bien connu d'ailleurs?
Je l'ai assez bien connu, je l'ai vu une dizaine de fois sur scène, et puis quand on habitait New York avec Miloš Forman, quand on préparait Taking Off, elle venait quelquefois dîner à la maison avec Jean-Pierre Rassam d'ailleurs. C'était d'ailleurs des soirées, mais elle était en dehors de la scène, très calme. Elle buvait, elle avait une gourde d'alcool, plus que droguée. Mais ce qui était extraordinaire chez elle, c'était les moments où sur scène, pendant le concert, tout à coup elle abandonnait ses musiciens et elle se mettait à vocaliser. Un peu comme Oum Kalsoum le faisait dans un tout autre continent. Et ça, c'était un moment, ça pouvait durer 10 minutes, où simplement elle usait sa voix. Le guitariste, de temps en temps, essayait de plaquer un accord pour la suivre, mais on ne savait pas où ça allait s'arrêter. C'était extraordinaire.
Quelqu'un a dit, il n'y a ni optimiste, ni pessimiste.
Grand bien vous fasse.
Il n'y a que des imbéciles gays et des imbéciles tristes.
Eh bien, je suis un imbécile triste.
Sur France Inter.
Vous connaissez la vieille salope?
Quelle vieille salope?
La mort. Elle vient jamais vous rendre visite?
Non, pas encore.
Moi, elle est venue très tôt. Qu'est-ce que tu fous? Elle m'a demandé. Rien, je lui ai répondu. Je t'attendais. J'étais assis dans ma salle à manger, en tête à tête avec mon gâteau d'anniversaire.
Quelle gueule est là, cette mort?
Très vieille, très fatiguée. On sent une lassitude. Tu veux un bout de gâteau? Je lui propose. Non, merci, elle me dit.
J'aime pas les trucs sucrés. La mort mange pas de gâteau.
Ah, moi non plus, j'en mange pas. Hein.
Michel Bouquet et Philippe Noiret dans les côtelettes de Bertrand Blier. Jean-Claude Carrière, ça vous dit de discuter un jour avec la mort, souvent représentée avec comme une femme, dans cet extrait?
Discuter avec la mort, c'est un challenge, comme on dit en bon français. Parce que je peux très bien imaginer ce que je lui dirais. Mais ce qu'elle me répondrait, ça, alors, est-ce qu'elle-même, elle parlerait?
Mais est-ce que vous reviendriez pour nous...
Je crois que la mort n'a rien à nous dire.
Elle ne reviendrait pas pour nous dire quelque chose? Et vous, est-ce que vous reviendriez pour nous dire ce qu'elle a dit?
Tout cela suppose qu'il y aurait un monde ou une vie, ou une survie après la mort. Or, elle est bien placée, elle, pour savoir qu'il n'y a rien.
Alors, dans La Vallée du Néant, vous écrivez qu'il est illusoire de résister au flot qui nous emporte vers le néant. Et vous écrivez que nous sommes les enfants du mouvant.
Oui, j'aime beaucoup le mot mouvant parce que cela fait partie d'un quatre mots d'un hymne shivaïque, excusez-moi, du 6e siècle, qui m'a poursuivi toute ma vie et qui va avec le pantareil grec, mais qui va un tout petit peu plus loin, qui dit « l'immobile se disperse ». Et le mouvant demeure. Si on prend ces quatre mots, et si on se demande qu'est-ce que c'est que c'est pas le mouvement, c'est le mouvant. C'est-à-dire la qualité qui est en nous tous, et même dans les choses, dans les plantes, de changer constamment. Ça demeure. Dès qu'on essaie de fixer, d'immobiliser quelque chose, ça s'en va. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé.
Oui. Christine Appel-Edouel.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos du mouvement et de la mort. C'est-à-dire que si on arrêtait de mourir, par exemple...
Il faudra arrêter de naître.
Mais en réalité, nous serions morts.
Oui, nous serions morts,
absolument. L'arrêt du mouvement, c'est la mort.
C'est la mort, exactement.
Alors vieillir, c'est, vous l'écrivez, accepter de se placer exactement au milieu du courant, comme pour l'affronter, comme pour résister.
Oui, parce que je parle de cette... anecdote japonaise du vieux monsieur dans le torrent qui résiste aux assauts du torrent et à ses tourbillons parce que depuis toujours il s'est habitué à vivre dans ce tourbillon alors que ceux qui ne sont là que de passage ne peuvent pas le traverser. Donc c'est aussi une idée que beaucoup de gens qui craignent la mort, qui en parlent beaucoup, qui la redoutent, qui tous les matins s'auscultent, s'examinent, etc., sont ceux qui, en général, vivent avec la mort, tandis qu'ils sont encore vivants. Oui, c'est très, très curieux. Et c'est pas du tout mon cas.
Alors, il y a de belles pages sur la vieillesse dans votre ouvrage. Pour la plupart d'entre nous, vieillir, c'est une prise de conscience et une lutte de chaque instant. Comment vivez-vous la vieillesse venue à pas de loup, petit à petit, insidieusement?
Bon, la vieillesse n'est pas un état agréable. Je suis comme tout le monde, j'ai des maladies, des infirmités, des faiblesses, des un cœur qui flanche par moments. Enfin, chacun a quelque chose, mais vieillir est le seul moyen que nous ayons trouvé pour vivre longtemps. C'est le meilleur. On la connaît pas d'autre pour l'instant.
Mais à 45, 50 ans, vous avez senti quelque chose se désintégrer, se dissoudre en vous, très lentement. Vous avez senti que votre alliance avec le monde, vous l'écrivez très bien, se dissiper petit à petit.
Oui, on le sent. Moi, je l'ai senti en tout cas, et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, c'est à ce moment-là, entre 40 et 50 ans, qu'il faut faire le plus gros effort pour ne pas se laisser aller à ce sentiment de déliquescence, de déchéance qui est en nous, et au contraire, résister et se lancer. Moi, c'est à l'âge de 40 ans que je me suis lancé dans le Mahabharata. Il y avait 11 ans de travail qui m'attendaient devant moi. Il ne faut pas avoir peur, même à 60 ans, même plus tard, de se lancer dans de grandes aventures, parce que le projet qui nous porte, s'il est intéressant, ne exige de la vie. Oui.
Et à mesure que l'on vieillit, on peut avoir la tentation de se retirer du monde. Vous l'avez eu cette tentation ?
Non, jamais, jamais, jamais. Je me retire du monde de temps en temps, pendant quelques heures. Mais j'y reviens vite.
Bonjour David.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Paris, dans le 11e arrondissement.
Oui, nous vous écoutons. Carrière, bonjour au plateau.
Oui, bonjour.
Je vous appelais parce que c'est un sujet que je trouve passionnant, la mort, puisqu'on vit avec en permanence. Et moi j'ai choisi en Occident, alors on est toujours dans le pathos, la tristesse, mais moi j'ai été initié, pour faire très simple, rapidement, franc-maçon il y a 25 ans. Et l'évolution maçonnique ne se fait qu'à travers des morts régulières, symboliques évidemment. Mm-hmm. D'ailleurs on peut dire que en tant que profane, ben, notre corps change tous les jours, nos microbiotes, etc., meurent et renaissent, ce sont des cycles permanents. Et j'ai eu la chance de pouvoir me poser la question très jeune de ben, c'est d'où on vient, où on va, qui sommes-nous, ce qui sont des questions très importantes. Et je trouve que c'est la seule société initiatique occidentale qui est la maçonnerie sous toutes ses formes, hein, permet justement d'approcher la mort de très près, puisque j'ai fait mon testament à 25 ans.
Et de se dire qu'en fait... Vous l'avez refait, j'espère.
On peut sortir d'un système de pensée et de perception pour travailler en loge en dehors du temps, ce qui est très important. Il n'y a pas de temps matériel et des relations assez extraordinaires. Et puis surtout, faire face à la mort en la regardant non pas comme quelque chose de néant, mais quelque chose qui permettra, moi je le souhaite pour moi, et comme c'est fut le cas pour mes parents, de passer ce qu'on appelle l'Orient éternel, c'est-à-dire une forme d'éternité en fait.
Merci beaucoup David pour votre témoignage ce matin. Jean-Claude Carrière, il y a de très belles pages sur le plaisir dans votre ouvrage. Quelle est votre conception du plaisir de vivre ? Vous écrivez « Sans le plaisir, nous serions à coup sûr égarés sur la terre. Le plaisir est la parure du besoin. Il est le plus, le cadeau, la prime. »
Vous n'êtes pas d'accord ?
Si, totalement. Je souscris des deux mains. Mais est-ce que vous avez essayé de vous préserver du plaisir ? Certains se préservent du plaisir.
De certains plaisirs et de certains excès de plaisir peut-être, mais le plaisir et même le plaisir du travail, le plaisir d'écrire, le plaisir de trouver de nouvelles histoires, de faire de nouveaux films, de découvrir de nouvelles cultures, c'est plus qu'un plaisir même, par moments c'est une joie.
Mais l'euphorie perpétuelle des plaisirs, ça peut vite perdre de son charme.
Oui peut-être, mais rien ne serait pire que de perdre l'envie de vivre. Moi, je répète un mot d'un l'auteur du XVIIIe siècle qui s'appelait Louis-Sébastien Mercier, qui disait « Je vis par curiosité ». Je crois que ça a été moi, le mot qui m'a suivi toute ma vie. Curieux de ce que je ne sais pas, de ce que je n'ai pas vu, des autres, de ceux qui ont vécu avant moi, etc. Peut-être de ceux qui vivront après moi. Et si je perdais cette curiosité, s'il me disait « Voilà, maintenant, je sais, je n'ai plus rien à apprendre », alors là, je serais vraiment mort.
Guillemette Audicino.
Mais justement, c'est ça qui me frappe. Vous avez l'air plus ou moins, disons, copain avec la mort, ou en tous les cas, vous ne la craignez pas. Vous ne craignez pas de disparaître, mais est-ce que, dans le concept de mort, vous ne craignez tout de même pas, justement, que ça s'arrête ? Que ça s'arrête, tout ça, cette curiosité, que vous n'ayez pas le temps de faire le prochain scénario, le prochain livre, la prochaine gourmandise. Est-ce que ça, en revanche, ça vous fait peur quand
peur,
même ?
Peur, non. Je sais que ça arrivera, forcément. Hein. Je serai pris, comme le disait Montaigne, dans mon jardin, et insouciant de la mort et de mon jardin imparfait. comme il le disait. Ça, je le sais. Bon, je le sais depuis longtemps, mais comme disait aussi Montaigne, ce n'est pas la mort qui est redoutable, c'est le mourir. C'est-à-dire, c'est la souffrance longue, quelquefois, et insupportable qu'entraîne la mort et que nous connaissons autour de nous. Je veux dire, nous avons tous des amis dont on connaît la fin inévitable et qui sont paralysés au fond d'un lit et que ça, évidemment, c'est la pire des choses. De ce point de vue, je suis très partisan de l'euthanasie. Et je raconte dans le livre la mort de Bernard Haller, avec qui j'ai travaillé toute sa vie, qui était un ami très très proche, un plus que frère, comme on dit en Afrique, et qui m'a appelé un jour, il était suisse, à Genève, et qui m'a dit, Jean-Claude, je vais mourir dans 3 semaines. Voilà. Il m'a annoncé ça comme ça, il avait pris sa décision, il était malade, il avait 75 ans. Et alors, ensemble, nous avons fait son testament, nous avons revu à peu près toute son œuvre, et il m'a demandé de prononcer son oraison funèbre. C'était tout à fait étonnant, parce que je me suis retrouvé donc avec une dame protestante dans un temple de Genève qui a commencé son discours en imitant Bernard Haller, ce qui est quand même « Mes chers frères !» Ben, il avait un numéro comme ça. Moi, j'étais assis, j'étais debout à côté du cercueil où était Bernard, mon plus que frère, et j'ai improvisé un dernier sketch en lui disant « Alors, écoute, les 200 francs que tu me devais, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et toute l'assistance, où il y avait sa famille et tout ça, a ri. C'était un enterrement le plus... Il aurait adoré ça.
Christine Lapédouelle.
Oui, quand vous dites que, en effet, il n'est pas nécessaire. Avoir peur de la mort, en réalité, n'a pas de signification.
N'a pas de sens, non.
C'est vide de sens. On est vivant.
On peut avoir peur de souffrir, oui.
Alors, on peut avoir peur de souffrir. Nous sommes vivants, puis nous sommes morts. Oui. Donc, nous ne le savons pas. C'est ce que disait Malraux en disant, je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mon trépas. C'est exactement ce que vous dites.
Oui, exactement. Ce que disait Montaigne d'une autre manière.
C'est ça.
Vous prendriez la décision de l'euthanasie, Jean-Claude Carrière?
Ah oui, absolument. Ça, sans aucun doute, si je pouvais. D'ailleurs, je crois qu'on peut le faire en Belgique. Je crois qu'on peut, avec certaines autorisations, se faire... Oui, si je savais que je dois mourir en souffrant dans quelques mois, oui, ça, je le ferais, sans aucun doute.
Guillemette Odissino.
Non, mais je continue à penser que dans la mort, au-delà de la souffrance... C'est le fait de... Ce n'est pas de mourir, c'est de ne plus vivre. Il y a des choses qu'on n'aura pas eu le temps de faire, il y a des gens qu'on n'aura pas eu le temps d'aimer.
Mais vous ne le saurez pas.
Il y aura
pas.
Des livres qu'on n'aura pas terminés, on sera au chapitre 7, il en restera 13 et on va mourir entre-temps, c'est horrible. Moi, oui, c'est ça que je trouve.
Vous ne le saurez pas.
La mort, c'est du temps perdu, quoi.
Oui, peut-être, oui, mais on peut dire ça de la vie aussi.
et de quitter Jean-Claude Carrière, de quitter les plaisirs de la table, que vous avez bien connus, du sexe. Je ne sais pas, de l'esprit et plaisir
ça,
du...
Ça ne me regarde pas.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Plaisir du bruit, de la cascade et du chant des oiseaux.
Oui, ça... Alors, nous en venons à l'essentiel, c'est-à-dire à la vie. Beaucoup de cultures et de civilisations se sont demandé s'il y avait une vie après la mort. Et beaucoup l'ont cru, et beaucoup le croient encore. Et même, je connais des gens, et vous aussi sans doute, qui sacrifient cette vie... au profit de la vie à venir. Ils sont tellement sûrs qu'ils se privent de tout, qu'ils se fouettent, qu'ils se flagellent. Bon. Ce qui est sûr, à propos d'un, c'est qu'il y a une vie avant la mort. Nous en sommes la preuve. En ce moment, nous sommes ici, dans ce studio, nous sommes 5, et nous sommes vivants. Et il y a des gens qui nous écoutent et qui sont comme nous vivants. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du privilège extraordinaire que c'est d'être vivant. Et que cette vie-là, nous n'en aurons qu'une, et qu'il faut en profiter pour qu'elle soit belle pour soi, c'est tout à fait normal, et bonne pour les autres, utile si possible.
Christine Lapédouelle.
Oui, belle et bonne, c'est vraiment c'est la question socratique. Oui. Hein, c'est une question qui agite l'humanité depuis longtemps.
Qui l'agite et la calme.
L'agite et la calme, oui. Mais c'est vrai que se dire que nous sommes là aujourd'hui et que nous devons vivre, non pas en profiter, mais vivre intensément, c'est aussi une pensée très proche, enfin qui est celle du bouddhisme.
C'était de trop penser à la mort et de ne penser qu'à ça, fait oublier la vie, tout simplement.
Oui.
Or, la vie est un privilège extraordinaire.
C'est si ici et maintenant.
Oui, c'est maintenant.
Dites-nous comment vous abordez... Vous disiez, pardon?
Hic et Nunc, qui est la devise du théâtre. Comme
exactement. Dites-nous comment vous abordez l'idée du néant, de la finitude, de la mort. Dites-nous quel est le sens de la vie pour vous. 01 45 24 7000. Radio Elvis, interprété 23 minutes.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h44, Jean-Claude Carrière est notre invité. Il publie La Vallée du Néant. Alors, vous insistez dans ce livre sur le plaisir de connaître, l'un des grands plaisirs de la vie. Vous écrivez, lire et voir jusqu'au bout, jusqu'à l'entrée de cette Vallée du Néant, savoir, apprendre, découvrir chaque jour quelque chose sur le monde ou sur les autres vivants, sur nous-mêmes ou sur les choses que nous jugeons inanimées, ne pas perdre une seule occasion.
Oui, je parle pour moi là. Hein. Oui, je ne dis pas que je connais des ignorants heureux. Hein, c'est pas du tout une condition indispensable, mais je sais que le savoir, enfin la curiosité satisfaite par le savoir, a rempli ma vie et continue.
Vous avez eu la chance d'être né curieux, vous vous étonnez à chaque pas dans votre vie.
Je m'étonne, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître surtout les autres cultures très différentes de la mienne, que j'ai essayé de pénétrer par moments. Bon, j'ai vécu plusieurs fois en Amazonie, en des temps très très anciens, c'est-à-dire au paléolithique, avant même le néolithique.
Vous écrivez, on m'a donné toute une existence pour aller dans la grande forêt où chaque arbre, chaque feuille porte un mystère.
Oui, je ne peux pas mieux le dire, moi, je ne veux pas répéter ce que
je veux dire. Alors, un jour au milieu de votre vie, vous avez eu envie d'en savoir un peu plus sur les mystères de l'univers, de l'astrophysique, et vous avez vu chaque semaine des scientifiques à l'Institut d'Astrophysique à Paris, Michel Cassé, et vous dites que c'est sans doute la plus grande expérience de votre vie.
Je dois ça à Hubert Reeves, avec qui j'avais un projet de film à un moment donné, et puis le film n'a pas pu se faire, mais nous sommes restés amis, et il m'a présenté Jean Audouze et Michel Cassé, ces deux élèves, avec lesquels nous nous sommes lancés, il y a déjà 35 ans, dans l'étrange aventure de partager nos connaissances, alors que je n'ai aucune formation scientifique. Donc je suis passé au tableau noir. Tous les jeudis matins, Jean Audouze était le directeur de l'Institut d'Astrophysique de Paris, il me recevait, on passait la journée ensemble, et moi je l'ai nourrissaient de légendes indiennes ou iraniennes, et eux, de leur côté, peu à peu, m'enseignaient ce qu'est un proton, un neutron, etc. Si vous voulez, je peux vous faire une petite...
Avec plaisir. Vous dites que c'est sans doute la plus grande expérience de votre vie.
Oui, absolument. C'est de,
pourquoi
de... Parce qu'on pénètre dans l'inconnaissable. Le savoir vous conduit à la porte même, par exemple. Je demande à Michel Cassé un jour qui caressait son chat sur ses genoux. Combien il y a d'atomes dans la tête de ton chat? Et il me dit 10 puissance 27. Bon, pour lui, ça a un sens. 10, ça fait que 27, 0. Mais pour moi, tu n'as pas une autre façon de me le dire. Et alors ça oublie. Alors si, il m'a dit, si, prends une orange, qui est à peu près le volume de la tête de mon chat. De cette orange, tu fais la terre tout entière. D'accord? Tu me suis? Oui, j'essaie de le suivre. Dans cette terre, tu l'as remplie de cerises. Alors prenons nos seaux et remplissons la terre de cerises. Tu as à peu près le nombre d'atomes qu'il y a dans la tête de mon chat. Maintenant, tu prends une cerise, tu en fais le dôme de la basilique de Saint-Pierre à Rome, tu mets un grain de riz dedans. Ce grain de riz, c'est le noyau de l'atome qui contient toutes les forces de l'univers. Je veux dire, quand vous en êtes là, vous dites, je suis quand même passé à côté d'un certain nombre d'informations.
Éric Libiot.
Oui, je me souviens, Jean-Claude Carrière, de vous avoir entendu à France Inter, à la matinale d'ailleurs, si je ne m'abuse, dire cette phrase qui pour moi résume absolument tout et sans doute votre vie. Vous aviez dit, les hommes n'ont pas besoin de croyances, mais ont besoin de connaissances.
Oui, c'est vrai. Oui.
Je trouve cette phrase, sans doute, qui est votre mantra, en tout cas.
Et besoin même de connaissances des croyances.
Oui, c'est vrai, oui. Quel regard vous portez sur ceux qui préfèrent l'obscurantisme, les théories du complot, au détriment de la connaissance? Vous qui avez consacré votre vie à apprendre.
Je m'efforce de ne pas leur porter un regard de haine ou d'hostilité, mais plutôt de pitié. Je les plains d'être passé à côté, d'être dans leur vie, de s'être bloqué sur une voie. C'est comme vous avez une immense gare de chemin de fer, mais avec une voie. Vous vous bloquez là-dessus. Le reste n'existe plus. C'est dommage. C'est tout simplement dommage.
Que diriez-vous, président Donald Trump, qui remet en question le réchauffement climatique en dépit des solides connaissances scientifiques accumulées dans le domaine? Vous qui êtes un militant de la première heure, dans les années 65-66.
En compagnie de René Dumont, bien sûr, et du fameux verre d'eau à la télévision.
Qu'est-ce que vous lui diriez?
À Donald Trump, get out.
Et à propos de l'environnement, justement, vous écrivez « Nous rongeons, nous grignotons le fruit qui nous porte de plus en plus. »
Oui, ça devient vraiment très grave. Hein. C'est une question dont un certain nombre, dont je fais partie, sont au courant et sont inquiets depuis 60 ans. Depuis 60 ans, on en parle, mais on savait déjà, à partir du début des années 62-63, grâce à des travaux américains et scandinaves, ce qui se prépare et ce qui est là à nos portes maintenant. Nous n'avons absolument rien fait. Nous sommes laissés emporter par les idées de croissance, d'argent, etc. Et pour tout le reste, nous avons négligé, je pense, et j'en ai bien peur, l'essentiel.
Vous l'écrivez, hein, l'univers, de toute façon, ne se soucie guère de l'état de notre planète.
S'en fout complètement.
Une planète de plus ou de moins sur la centaine de milliards.
Vous savez combien il y a de planètes?
Je sais pas.
Non, dans notre seule galaxie, il y a entre 100 et 150 milliards de planètes. Et il y a entre 100 et 150 milliards de galaxies. Donc, notre importance est toute relative.
Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez du Lot-et-Garonne, de Clairac.
Exactement, oui.
Alors, partagez avec nous votre sens de la vie, avec Jean-Claude
Alors,
Carrière.
Le sens de la vie, j'aimerais éclairer, peut-être, apporter un petit élément humblement. Je me suis dit, si on parlait de la chance qu'ont les êtres humains, c'est-à-dire je ne vais pas définir ce qu'est un être humain, je ne vais pas prendre ce risque, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'universel chez nous, c'est on a une chance phénoménale, c'est qu'on peut entrer en relation. C'est quelque chose d'extrêmement précieux qu'on devrait même prendre soin d'enseigner. Je m'explique. Par exemple, un dauphin n'a aucune chance de venir à ma rencontre. Moi, je peux décider d'aller voir un dauphin, mais est-ce que je vais m'autoriser le droit de le faire? Et comment je vais le faire? Et en fait, l'être humain, il peut aller à la rencontre de tout, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, à, il peut aller à la rencontre d'une œuvre, de soi-même, de la spiritualité, n'importe quoi. Donc, mais comment le fait-on? Et est-ce qu'on se rend compte de cette chance phénoménale qui nous lie tous? Et j'aimerais dire tout à l'heure, il était posé la question, quelle est la définition du mot sens? C'était soit une direction, soit quelle est le
signification,
soit une définition. Et bien peut-être qu'on peut se dire que entrer en relation, c'est un sixième sens qu'on devrait prendre soin. Voilà, c'est le sixième sens de la, le sens de la vie, c'est peut-être ce sens qui est notre chance de pouvoir entrer en relation et qu'on ne prend pas assez soin de transmettre, d'expliquer, de comprendre, de se léguer. Et
vous voilà, savez ce qui est, ce qui est
à l'immortalité éternelle.
Ce qui est formidable dans ce que vous dites, vous voyez, c'est que moi je connais plusieurs dauphins qui se disent ce qui est formidable avec les dauphins, c'est que nous pouvons entrer en relation entre nous, nous pouvons bavarder, changer des sentiments, alors qu'avec les humains on peut rien en tirer.
Merci Frédéric d'avoir appelé ce matin. Jean-Claude Carrière, vous dites que si nous avons frôlé la beauté, nous ne serons pas venus sur Terre pour rien.
Oui, c'est vrai. Ça c'est une. Mais il faut d'abord, il faut savoir ce qu'est la beauté, qui n'est pas la même pour vous, pour moi, pour d'autres. Mais le sentiment, à un moment donné, d'avoir senti comme un voile passer sur son visage, avec une émotion extraordinaire de qui peut venir de n'importe quoi, d'une présence humaine, aussi bien qu'artistique que scientifique. Ça, c'est, je crois, notre privilège numéro un. C'est l'émotion. Je crois qu'il n'y a rien qui dépasse cela, en tout cas en ce qui concerne ma vie.
Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez, Jean-Claude Carrière?
D'abord, ce n'est pas à moi de décider de ce qui m'est arrivé, en grande partie dû aux autres, ceux qui ont voulu travailler avec moi, ceux qui me le demandent encore, mais je referai le même choix,
le même
de
chemin,
raconter des histoires, parce que je crois qu'il faut avoir un don pour faire quelque chose, et je crois que j'avais le don, enfant, de raconter des histoires. Ce don, quand on en a un, qu'il soit musical, de dessin, etc., il faut le mériter. Parce que c'est très très rare d'avoir un don. Un don tout seul ne suffit pas. Il faut le mériter, et la seule façon de le mériter, c'est le travail.
C'est de travailler.
Il faut travailler constamment, tous les jours.
Christine Appelé-Douelle.
Oui, ça rejoint ce que vous disiez à propos de la joie de savoir, le gai savoir, qui est vraiment une force qui nous agrandit.
Vous savez, vous connaissez Nasreddin Hoxha, une histoire que je raconte dans un livre que j'aime beaucoup. Ce personnage qui a tous les défauts du monde, en particulier la paresse, et qui est là, qui ne fait rien du tout. Il traverse une période d'inaction. Et un de ses amis lui dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Mais je cherche un moyen de ne pas mourir. Et ça marche? Jusqu'à maintenant, oui.
Dernière question, Jean-Claude Carrière. Dans six mois, une météorite anéantit la Terre de façon sûre et certaine. Que faites-vous dans ce laps de temps?
Pas grand-chose, je crois. Enfin, j'essaie de préserver mes enfants, ma famille, mes proches. Mais de quoi? Est-ce que je les préviendrai même? Je ne suis pas sûr.
Vous seriez vraie, chez vous dans les roues?
La vraie question serait, est-ce que je le dis autour de moi ou pas? Est-ce que je l'annonce au risque d'accroître l'angoisse générale de la population, ou est-ce que je garde ce secret pour moi en espérant que c'est une fausse nouvelle?
Et est-ce que vous retourneriez chez vous, dans votre maison natale?
Ah oui, j'y retourne de toute façon 2 ou 3 mois par an.
Merci beaucoup Jean-Claude Carrière. Non, je recommande vivement la lecture de La Vallée du Néant. C'est publié chez Odile Jacob. Tout de suite, la chronique d'Éric Libiot de L'Express. Éric Libiot, l'éternel retour.
Eh oui, aujourd'hui nous sommes le 30 novembre et bientôt nous serons le 1er décembre, en fait demain semble-t-il. C'est donc l'heure des bilans. Oui, les bilans se font en ce moment puisque le mois de décembre est consacré à autre chose, aux courses de Noël, qu'il faut éviter de faire en retard cette année alors que chacun sait qu'on s'y mettra au même moment que l'année précédente. Personnellement à la bourre, toujours le 26 ou le 27 décembre. Il faut aussi s'occuper des vacances de ski et son cortège de bûches, des repas de Noël et son cortège de bûches, du réveillon où, quand, comment et avec qui. Ah non, pas François, cette année, il n'est pas très rigolo. Et puis Rachel, franchement, c'est une plaie. Il faudra ensuite s'embrasser à minuit sous le Guy. Ah ben non, tiens, Guy non plus, on va pas l'inviter, il est pas marrant. Et puis c'est regarder les yeux dans les yeux en trinquant, mais quelle idée saugrenue quand on pourrait regarder dans la même direction, et j'en passe. D'ailleurs, Jean non plus, on va pas l'inviter. Alors bien sûr, on pourrait faire un bilan début janvier. Mais finalement, non, puisque début janvier, c'est l'heure des résolutions. Par exemple, arrêter de faire des bilans qui ne servent à rien, pas plus que de prendre des résolutions d'ailleurs. C'est donc la dernière fois que je fais le bilan des bilans, qu'on se le dise. Mais le livre de Jean-Claude Carrière, qui se retourne vers l'avenir, m'a tout d'un coup incité à faire mon bilan. Et on va commencer par mon bilan carbone. Alors, je me suis rendu sur Internet, j'y ai passé une bonne demi-heure à essayer de comprendre comment calculer mon bilan carbone. Eh bien, je n'ai pas réussi. J'ai juste compris que cette demi-heure avait justement alourdi mon bilan carbone. Sinon, il y a le bilan santé, mais également le bilan sans café. Et là, effectivement, j'ai réduit ma consommation. Je n'en suis pas peu fier. Il y a aussi le bilan de compétences. Alors, pas facile à faire. En quoi suis-je compétent ? Ben, en absolument tout, je pense, sauf en comptage de bilan carbone. Il y a aussi le bilan comptable, qui demande à la fois modestie et prétention, puisqu'il faut savoir si on a compté pour les gens. Alors, j'espère que oui, un peu tout de même, surtout pour ma famille et mes amis, comme ils ont compté pour moi. Mais finalement, le seul bilan qui vaille pour moi est celui qui consiste à savoir quel est mon bilan riant. Combien de fois ai-je ri cette année et combien de fois ai-je fait rire ? Parce que malgré les difficultés, il faut continuer à rire. Par exemple, hier, j'ai bien ri en lisant à la page 320 du livre de Jean-Claude Carrière, où j'ai appris l'existence du peintre Clovis Trouille.
Oui.
Alors, j'avais pris au début d'année.
Je ne connaissais pas son existence, mais,
non,
mais quelle honte.
Mais oui, j'entends bien, vous savez. J'apprends toujours. J'avais pris au début de l'année la résolution de ne pas me moquer des noms de famille, mais je crains que ce bilan-là ne soit pas très positif, car tout de même, Clovis Trouille, c'est quand même très drôle, on dirait le personnage d'un sketch de Francis Blanche ou de François Morel. Eh bien, ce peintre français, né en 1889 et mort en 1975, antimilitariste et anticlérical, proche des surréalistes, n'avait peur de rien. À tel point qu'il a peint un Christ descendu de sa croix et qui, au beau milieu de la nef, rit aux éclats.
Oui.
Alors Jésus-Christ, mais Jésus rit aussi parce qu'il vient sans doute de faire le bilan de sa vie qu'il a décidé d'en rire. Ceci pour dire qu'on peut rire des clous et de tout, ce qui est très bon pour le bilan cardiaque. On peut aussi faire le bilan de cette émission qui a été extrêmement légère mais très profonde. Et puis le bilan critique de cette chronique. Ah ben non, on n'a plus le temps en fait, c'est dommage. On le fera l'année prochaine. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et revient toujours.
L'éternel retour d'Éric Libio de l'Express. Merci à la programmation musicale de Muriel Pérez, au standardiste de France Inter et la documentation de Radio France. Sachez que mardi prochain, je vous propose une émission spéciale avec le psychiatre Christophe André. Pour la première fois, ceux qui le veulent évidemment pourront méditer en direct sur France Inter. Vous pourrez également poser toutes vos questions sur la méditation, même les plus critiques. Notre camarade Fabienne Sintès tentera de méditer. Je crois savoir que ce n'est pas forcément sa tasse de thé. Voilà. Et lundi, on se demande si la médecine est une science exacte. À la technique ce matin, Élise Christophe et Pierre-Yves de Rolin.